Coulam.
Darmon, bonjour.
Bonjour et salam.
Heureux de vous retrouver sur les ondes de Coulam Radio. Nous l'avions annoncé. C'est un sujet qui anime nombre de passions sur le plan national, sur le plan international. C'est effectivement ce que nous appelons le projet d'extension de la souveraineté israélienne sur un certain nombre de territoires, ce que d'aucuns veulent qualifier d'annexion. Évidemment, nous ne partageons pas ce point de vue. Peut-être une réflexion d'ordre sémantique sur ce débat annexion et extension de la souveraineté israélienne.
Écoutez, oui, il faut, comme disait Eliane Amadeo Lévy Valensky, il faut restituer aux mots leur dignité et en cela se démarquer du langage commun, je dirais, de la grande presse internationale, mais aussi de la presse israélienne, qui en hébreu utilise le mot « sipouar », qui veut dire « annexer », et aussi de la classe politique israélienne, qui, toute tendance confondue, comme c'est un mot vulgaire, je dirais un mot usité, eh bien, utilise cette expression, qui d'ailleurs a été rappelée à l'ordre, il y a 48 heures, par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a justement remis les pendules à l'heure en disant qu'il fallait, comme l'avait fait le Premier ministre Begin en 81 à propos de l'application de la loi israélienne sur le Golan, parler non pas d'annexion, a-t-il dit, mais d'application et d'extension de la souveraineté israélienne, car le mot d'annexion utilisé dans certaines bouches et en tant que tel signifie en fait une appropriation d'une terre étrangère, une spoliation, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça dans le projet israélien.
Alors, justement, si nous venons à cette actualité, c'est que il y a ce fameux plan du siècle du président américain, président Trump, qui a été annoncé, et effectivement, dans la corbeille de la mariée, certaines extensions de la souveraineté israélienne sont prévues. Pouvez-vous nous décrire, au fond, la substance de ce plan Trump ?
Eh bien, écoutez, le plan Trump, c'est un plan, je dirais, que l'administration américaine a appelé un peu pompeusement le plan du siècle, dans la mesure où, à part de certaines données géopolitiques concernant les territoires, il entrevoit un processus de paix israélo-palestinien, israélo-arabe, fondé aussi sur une formidable aide économique de 50 milliards de dollars sur 10 ans, à la fois pour la future Palestine, qu'il entrevoit dans certains paragraphes, sous certaines conditions, mais aussi pour les pays arabes de la région. Et donc, c'est un plan à vocation, multiple. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, ce plan prévoit que environ 30% de la surface de la Judée-Samarie reviendrait à Israël et la totalité de la vallée du Jourdain. 30% de la Judée-Samarie, c'est-à-dire sans aucune déménagement, j'allais dire, ou transfert de population, soit juif, ni juive ni arabe. Et sur ces 30%, en fait, ce sont toutes les 180 villages et villes juives de Judée-Samarie, ainsi que les terrains qui les entourent, terrains de sécurité, et les grands axes routiers qui représentent environ le tiers de la Judée-Samarie sur les cartes de la région. Ce qui signifie, en contrepartie, que dans ce plan, il est prévu, dans les 4 années, à partir du moment où on commence à l'appliquer, dans les 4 années suivantes, les Palestiniens devront créer un État. Donc c'est le cadeau fait par le plan Trump aux Palestiniens sur les 2/3 de cette région, que de manière abusive, la presse internationale appelle la Cisjordanie. Je rappelle que c'était le nom qui avait été donné par l'entreprise coloniale jordanienne, transjordanienne, lorsque s'est approprié entre 47 et 1950, ces terres qu'elle a annexées justement, alors qu'ils ne faisaient pas partie de ces terres initiales. Et donc cette Cisjordanie, quand on n'appelle pas quelquefois encore pire les territoires occupés, reviendra pour 2/3 aux Palestiniens, ce qui n'est pas sans poser de problème à la fois au gouvernement israélien, mais aussi à la population des localités juives de ces régions, qui considèrent que, d'accord, le Pantrin fait cadeau d'un tiers de la Judée-Samarie, enfin un cadeau qui revient de droit d'ailleurs à Israël, mais en même temps crée un État palestinien sur les deux tiers de ces territoires, avec tous les dangers que ça suppose. Donc, en fait, il y a quand même aussi une précision qu'il faut faire, hein, quand on lit en détail le plan Trump, qui a été déjà publié il y a quelques mois, et ce que ne font pas la plupart des journalistes, c'est que ce plan assorti la création éventuelle d'un État palestinien, si toutefois les Palestiniens acceptent tout le plan Trump, et d'ailleurs les Israéliens aussi sont appelés à ne pas saisir ce qui les intéresse, mais appliquer l'ensemble du plan. Eh bien, du côté palestinien, il y a à peu près 8 à 10 conditions qui sont fixées par le plan Trump pour la création de l'État palestinien, qui, je peux vous dire tout de suite, à la fois sur le papier et encore plus en pratique, sont systématiquement rejetées et seront systématiquement rejetées par les Palestiniens. J'en cite quelques-unes. La frontière de sécurité d'Israël sera la vallée du Jourdain. Le futur État palestinien sera démilitarisé. Il n'aura pas de frontière commune, sauf dans, disons, la partie sud de Gaza, avec un autre État de la région, un autre État arabe. Donc, il ne pourra pas faire passer en contrebande un certain nombre d'armes dangereuses. Les Tzahal conservera le droit d'intervention sur toute la surface de l'État palestinien pour des questions de sécurité, quand il le jugera opportun. Et puis, Jérusalem ne sera pas divisée. Il n'y aura pas de retour des réfugiés. Et puis, bon, à propos de Jérusalem, le plan Trump entrevoit que le futur État palestinien pourrait avoir comme capitale un faubourg Jérusalem qui est situé en fait actuellement de l'autre côté de la barrière de sécurité, donc pas du tout dans la ville, connue, la ville, ni la vieille ville, ni la ville, israélienne. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, le plan Trump demande aux Palestiniens comme condition préalable pour créer leur État qu'ils reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Ce que du Hamas, en passant par le Fatah et au président Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, c'est une condition qui préalablement a été rejetée et qui contredit en fait les contenus explicites à la fois de la charte du Hamas et de la charte de l'OLP, soi-disant caduque et amendée, qui déclare presque dans les mêmes termes que les Juifs constituant non pas un peuple, mais une religion du livre, ils n'ont pas vocation à être un peuple et n'ont pas droit à la souveraineté sur aucune terre de la planète. Et donc, si vous voulez, ça c'est intéressant, parce que quand on pense que les Palestiniens négocient depuis plus de 20 ans et Oslo avec Israël, ils négocient non pas en tant qu'État juif, mais en tant qu'entité de facto sur le terrain, avec l'espoir que la Grande Palestine annihilera évidemment Israël. Et donc, dans le plan Trump, on a tenu compte de cette nuance d'importance pour préciser que, il faudra que les Palestiniens se rendent à l'évidence que les Juifs ont un droit souverain sur une partie de cette région.
Alors, est-ce que c'est la raison principale ou une des raisons qui font qu'il y a, sur l'initiative des Palestiniens, une levée de boucliers des chancelleries internationales. En termes de droit international, alors cette extension de la souveraineté israélienne sur ces territoires, est-ce que ça constitue une entorse ?
Eh bien, pas du tout, parce que contrairement au politiquement correct affiché dans la plupart des médias occidentaux, européens et notamment français, qui ont une vieille dette à régler avec, l'esprit colonialiste français, mais aussi la collaboration au moment de la Shoah, et qui ont en fait sont passés de manière radicale depuis deux, trois décennies dans un camp, je dirais, hostile à l'entreprise de peuplement de la Judée-Samarie. Eh bien, contrairement à ce que disent donc ces médias et ces politiciens, et ce qu'essayent de faire passer comme message les Palestiniens, si bien à l'ONU qu'au sein de l'Union européenne et que dans toutes les instances internationales, à savoir que même en octroyant aux Juifs qu'un tiers de la Judée-Samarie, il s'agirait de terres palestiniennes. En fait, il faut savoir que dans l'histoire, il n'y a jamais eu, je crois que vos auditeurs le savent, mais il faut quand même revenir sur les fondamentaux, surtout dans une époque de confusion pareille. Il n'y a jamais eu de Palestine dans cette région du monde. Ce nom fut donné par l'Empire romain lorsque, après une résistance farouche de plus d'un siècle des Juifs qui luttaient contre la conquête de Rome lors du premier siècle de l'ère commune, pour effacer jusqu'à la mémoire du nom de Judée qui était le nom de cette partie de la région, et bien les Romains débaptisèrent sur leur carte et débaptisèrent ce nom et lui donnèrent le nom de Palestine, d'une peuplade située au sud, donc du côté de Gaza et d'Ashdod, qui s'appelait les Philistins. Et c'était une manière d'aller jusqu'à effacer jusqu'au nom même d'Israël et de la Judée. Et puis, dans l'histoire plus récente, en fait, les Palestiniens en tant que tels, bon, c'est si vous voulez, c'est toute une question qui a été montée sur pied par à la fin des années 50, au début des années 60, au moment de la vague tiers-mondiste, par les stratèges du KGB et de Moscou, qui ont en fait fabriqué de toutes pièces la cause palestinienne, en invoquant donc le fait qu'Israël, appuyé par les États-Unis, constituait un expansionnisme, un impérialisme, alors que dans le droit international moderne, dès la déclaration de Balfour de 1917, puis ensuite à la fameuse conférence de San Remo de 1920, dont on vient de fêter le centenaire, auquel d'ailleurs ont participé des grandes puissances comme la France, l'Italie, le Japon et d'autres grandes puissances, la Grande-Bretagne, jusqu'au mandat britannique deux ans après, en 1922. La commission Peel ensuite en 1933-34, et aussi le plan de partage de 1947, en fait, dans tous ces textes, et puis évidemment après, lorsque l'ONU, qui s'est créée après la Seconde Guerre mondiale, a repris, si vous voulez, les conventions antérieures en les légalisant, dans tous ces textes, la Judée-Samarie est une terre octroyée au peuple juif dans son foyer national. Et donc, si vous voulez, il y a une jurisprudence extrêmement solide qui montre que, bien sûr, il ne s'agit pas de spoliation et qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien avec aucune capitale dans cet endroit du monde. Et plus encore, vous savez, en 2007, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une loi sur le droit fondamental des peuples autochtones et qui stipule que aucune puissance, aucune lutte politique ne peut priver les peuples autochtones de leur droit sur la terre qui correspond à leur histoire. Alors, c'est bien le cas du peuple juif, puisque, si vous voulez, dans l'histoire biblique, tout le Tanakh, toute la Torah ne parle très peu de la bande côtière. Il y a quelques villages qui sont cités, mais c'est essentiellement la Judée de Samarie, Siloé, Naplouse, qui s'appelle en fait Shrem dans la Bible, Hébron, Jérusalem, qui sont le cœur, le berceau de la patrie juive hébraïque, et qui ont été reconnus comme tels dans les conférences dont j'ai parlé, la déclaration Balfour, bon, qui n'était pas une conférence, la conférence de San Remo, je répète, le second mandat britannique, qui octroyait d'ailleurs des terres de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, pour Israël, la commission Peel, et puis le plan de partage qui, lui, a fait un autre travail, c'est-à-dire que petit à petit, du point de vue de l'ONU, on a réduit les territoires octroyés aux Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les prétentions palestiniennes et le grand mensonge médiatique qui s'ensuit sont fondées sur une impasse juridique à propos de laquelle d'ailleurs Israël n'est pas assez explicite. On n'entend pas assez de voix de hauts diplomates ou de gouvernants israéliens dire haut et fort que les fameuses résolutions de l'ONU qui ont condamné ces dernières décennies les localités juives, ce qu'ils appellent les implantations, les colonies juives, avec toute cette connotation évidemment très péjorative, comme illégales, en fait n'ont aucun poids juridique. Ce sont des recommandations de l'Assemblée générale de l'ONU ou bien du Conseil de sécurité de l'ONU qui, face par exemple à la loi de 2007 sur le droit intrinsèque des peuples autochtones, n'ont aucun poids juridique. C'est-à-dire, ce sont des exhortations, si vous voulez. Or, les Palestiniens n'ont pas cessé de construire et de tisser leur tapis de mensonges sur, si vous voulez, le fait qu'ils ont inventé une Palestine. Ils ont aussi une Palestine qui n'a jamais existé, puisque dans le meilleur des cas, ça s'appelait la Cisjordanie, et en fait, c'était une colonie transjordanienne. La Jordanie elle-même, pour mémoire, a été créée en 1946, c'est-à-dire à peine deux ans avant l'État d'Israël. Donc, vous voyez, la Syrie moderne, elle aussi a été créée en 1945-1946. Et donc, on a affaire vraiment à un tissu de mensonges, d'autant que... on sait dans l'histoire, notamment du XIXe siècle, que Ceux qui composent aujourd'hui le prétendu peuple palestinien, ce sont des peuplades. Il y a très très peu de peuplades locales de certains bédouins qui étaient présents sur place, dans certaines agglomérations, dans le désert notamment, dans les oasis. Mais la plupart des Palestiniens d'aujourd'hui sont venus des peuples et des pays avoisinants lorsque le Yishuv juif au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e, commençait à fleurir et qu'il y avait du travail. Et si vous prenez par exemple dans l'état-major de l'OLP le porte-parole actuel de l'OLP, de l'autorité palestinienne, Saeb Arekat, lui, Saeb Arekat, c'est une famille libanaise, syro-libanaise, qui n'a jamais été implantée il y a deux générations en Israël. Et on pourrait multiplier les exemples. Arafat lui-même, originaire d'Égypte. Et donc, si vous voulez, l'invention de la Palestine dont on subit les méfaits depuis presque cinq décennies, c'est une stratégie, si vous voulez, de négationnisme de l'histoire hébraïque de cette région. Et malheureusement, ça devient aujourd'hui, je dirais, parole officielle et parole d'évidence. Et ceux qui aujourd'hui, à l'occasion de ce débat sur la future expansion de souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie remonte dans les fondamentaux, en fait, ne trouve pas de réponse du côté palestinien. Ainsi, je vous donne un autre exemple très très probant. Les Palestiniens répètent depuis presque la guerre des six jours, de 67, que la région n'aura de cesse de revenir au calme que lorsqu'ils disposeront d'un État palestinien dans les frontières, c'est l'expression que j'utilise, les frontières d'avant Genève 67, c'est-à-dire les frontières de l'armistice de 1949, et avec Jérusalem comme capitale. Alors, outre le fait qu'il n'y a jamais eu de capitale, Jérusalem ne compte pas dans le Coran, il n'est même pas cité, et qu'il n'y a jamais eu de capitale de Palestine à Jérusalem, mais le fait de parler et d'invoquer des frontières pour les lignes d'armistice de 1949, c'est un gouffre, parce que quand vous constatez que justement ces lignes d'armistice sont des lignes provisoires qui ont été donc des lignes de cessez-le-feu, et que les Palestiniens ont transformé en frontières comme s'ils avaient un droit préalable dans ces zones-là, c'est tout un univers sémantique qui emporte, si vous voulez, des tas de décisions au niveau de l'ONU. Bon, et d'ailleurs, même dans la résolution 242 de l'ONU, qui exigeait après la guerre des six jours le retrait d'Israël, non pas des territoires qu'il aurait saisis pendant cette guerre, mais deux territoires, of territories en anglais, de certains territoires. Quand on regarde les choses à la loupe, on s'aperçoit que la cause palestinienne est minée de contradictions et de mensonges, et que effectivement, comme je disais, Israël, malgré certains bons diplomates qui ont pu prendre la parole ici ou là, surtout en francophonie, surtout en pays européen, en France, n'a jamais très bien défendu sa cause.
Alors, précisément, face à tout cela, moi j'avais imaginé, avec notamment ce gouvernement d'union nationale, d'avoir une sorte de réponse univoque du gouvernement face effectivement à ces tentatives de falsification de l'histoire de la part des Palestiniens. Et pourtant, on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement est dans une grande indécision, un grand cafouillage. Quelle est la situation aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, vous avez raison de me demander. Je dois vous dire qu'en tant qu'observateur de la scène israélienne depuis plus de 35 ans maintenant, nous n'avons jamais vécu, déjà c'était le cas avant la formation du gouvernement d'union nationale ou d'urgence nationale, qui d'ailleurs a vu le jour surtout à cause de la crise du corona, et non pas en fonction des affinités des partis qui le comprennent. On avait pensé que ce gouvernement allait, disons, quand même à épouser les contours d'un certain consensus à la fois politique et sociétaire israélien. Or, c'est pas du tout le cas. D'abord, parce que contrairement à ce qui est écrit dans l'accord de gouvernement qui prévoit, et le Likoud a été très clair là-dessus, que le gouvernement d'union, au mois de juillet, appliquera le plan Trump en étendant sa souveraineté sur 30% de la Judée-Samarie et toute la vallée du Jourdain, en fait, le parti bleu et blanc, dirigé par Benny Gantz, et aussi l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi sont réticents à ce projet d'application à la loi israélienne et d'extension de la souveraineté. Et je dis les mots par euphémisme parce que, à l'heure qu'il est aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la position sont de Benny Gantz ni d'Ashkenazi. Ils ont, avec les différents diplomates internationaux qu'ils ont rencontrés ces derniers temps, et aussi bien dans la région qu'ailleurs, ils ont utilisé un langage extrêmement, pas seulement modéré, parce que ce qui pourrait être louable, mais un langage ambigu, en disant que Israël procédera à une certaine annexion, entre guillemets, car eux parlent d'annexion, que si il y a un consensus régional, ce qui n'est pas le cas, ce qui est impossible, puisque c'est une levée de bouclier arabe, y compris des pays dits modérés de la région, que si cela préservera les intérêts israéliens, et donc un langage qui est aux antipodes de ce paragraphe de l'accord où il consentait donc à ce projet d'expansion de la souveraineté israélienne. Ça n'a pas empêché Benny Gantz ces dernières semaines de donner ses instructions en tant que ministre de la Défense à Tsahal pour prévoir tous les scénarios possibles, imaginables, y compris de troisième intifada, voire de regain de terrorisme au cas où Israël passerait à l'acte. C'est-à-dire, en fait, Gantz assume comme il peut du bout des doigts ses responsabilités, mais le fait est que tout le monde voit son langage corporel, comme ses expressions ou ses demi-prises de parole, ni figue ni raisin, montrent qu'ils ne sont pas du tout chauds pour cette extension, et qu'ils se contenteraient, comme l'ont dit certains porte-parole du Parti Bleu et Blanc dans les dernières 48 heures, ils se contenteraient tout à fait peut-être de la vallée du Jourdain, car ça, c'est la frontière de sécurité d'Israël intangible, et puis peut-être soit de quelques blocs de localités juives qu'on a appelé les blocs d'implantation à l'époque de Sharon et de Bush, ou de quelques grandes villes, mais certainement pas des 30% promis dans le plan Trump, ce qui, en fait, contribuerait, si vous voulez, à croître la confusion, dans la mesure où Israël gâcherait sa cartouche, si j'ose dire, de la souveraineté à laquelle le plan Trump lui donne le feu vert, et puis surtout apparaîtrait comme étant en deçà, étant hésitant par rapport à l'offre américaine. Alors, symptomatiquement, ces derniers jours, l'ambassadeur américain Friedman à Jérusalem a fait plusieurs réunions de longues heures durant quadripartite avec Ashkenazi et Gantz d'un côté, Netanyahou de l'autre, pour essayer de les faire se mettre d'accord. C'est absolument incroyable de voir que c'est l'administration américaine et ses diplomates qui essayent de pousser le gouvernement d'union, dans toute la confusion qu'il caractérise, à aller de l'avant. Et on n'a jamais vu ça, surtout que, comme tout le monde le sait, Israël ne peut pas gâcher cette cartouche. On ne sait pas très bien ce qui va ressortir en novembre des prochaines élections américaines, avec le double handicap de Trump, la crise économique et le coronavirus. Il est pas du tout évident qu'il puisse l'emporter à nouveau. Et alors, un président démocrate arrivant à la Maison Blanche en janvier 2021, ce sera pour Israël non pas la croix et la bannière, mais l'étoile de David et la bannière. Parce que les démocrates ont déjà dit qu'ils étaient hostiles à toute extension de la souveraineté. Donc on a une fenêtre d'opportunité dans les mois qui viennent qui doit être absolument saisie, faute de quoi, si vous voulez, la confusion sera encore plus grande. Et je crois que cette analyse est partagée par le Likoud de Netanyahou aussi. Et il y a, si vous voulez, une impatience ces derniers jours, pas seulement sur le plan Trump et son application, mais aussi sur d'autres dossiers importants, une impatience du Likoud et de la droite israélienne vis-à-vis de son partenaire momentané dans le gouvernement du non, à tel point que certains chroniqueurs politiques israéliens ont évoqué la possibilité d'une chute du gouvernement en ce début de semaine.
Alors, on reviendra sur cette hypothèse, mais peut-on imaginer ici que le président Trump est en train, à travers les pressions des États arabes modérés, de suggérer à Israël de ne pas jouer sa cartouche d'entrée de jeu et d'accepter un plan par étapes?
Écoutez, c'est plutôt l'entourage de Trump et son gendre qui est l'un des préposés au plan, l'application du plan, Kouchner, qui laisse entendre, qui laisse deviner peut-être cette intention, mais dans les réunions, les comptes-rendus de réunions qu'on a eues de Friedman, qui s'est donc assis avec Netanyahu, Gantz et Ashkenazi, c'est plutôt les Américains auraient vu d'un meilleur œil le fait qu'Israël se décide à comment dirais-je, à étendre sa souveraineté sur 30% de la Judée-Samarie. Parce que, si vous voulez, le fait qu'on procède par étapes, que soit dans la formule de très minimaliste, de bleu et blanc, qui voudrait donc qu'on applique la loi israélienne dans la vallée du Jourdain et dans trois ou quatre grandes villes comme Ariel, comme Malé Adoumim et d'autres encore, et quelques petits blocs d'implantation, peut-être la région du Gush Etzion qui est au sud de Jérusalem. Il y a une autre, ces dernières heures d'ailleurs, c'est une nouvelle qui est tombée dans l'après-midi, ces dernières heures, on m'a fait dire à Netanyahou, enfin, il faudrait vérifier plus sérieusement cette nouvelle, que bien que sur le papier, le Likoud a toujours voulu appliquer l'ensemble donc de la souveraineté israélienne sur ses 30%, il se pourrait qu'il y ait une initiative qui soit prise d'une souveraineté étendue en deux étapes. Et paradoxalement, que serait la première étape, donc pour les jours qui viennent, ce serait de s'assurer de cette souveraineté sur les parties les plus reculées de la Judée-Samarie, les localités les plus isolées, les petites localités isolées, qui pourraient être sujet à caution, et donc d'y appliquer la souveraineté israélienne maintenant, attendu du fait que dans un second temps, peut-être à la rentrée, après l'été, Israël appliquerait sa souveraineté sur sur les blocs d'implantation qui sont déjà acquis à Israël par bon sens et par même les lettres qu'avait échangé Bush avec Sharon, et aussi la vallée du Jourdain qui elle aussi tombe sous le sang. C'est-à-dire qu'on procéderait à l'inverse en appliquant la souveraineté sur les endroits disons les plus contestés. Bon, de toute manière, tout est contesté par les Palestiniens, mais sur les endroits géopolitiquement les plus isolés, pour assurer, si vous voulez, leur rattachement et la continuité territoriale. Et puis, les grandes zones qui, de toute manière, sont assurément déjà dans la besace d'Israël, la vallée du Jourdain et les grands blocs, eh bien, seraient ensuite rattachés à cet ensemble territorial. Et ce, dit-on au Likoud, pour essayer de montrer à la communauté internationale que Israël a écouté ses critiques, qu'ils ne foncent pas la tête baissée, et que, comment dire, on a tenu compte du climat un peu menaçant qui entoure ces projets. Alors, je ne sais pas, à vrai dire, si c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas d'ailleurs si dans le contexte d'un Moyen-Orient où on parle beaucoup, mais où quelquefois on fait peu, c'est vraiment la bonne marche à suivre. C'est trop tôt pour le savoir, parce que sur le papier en tout cas, une extension de souveraineté qui serait, comment dire en hébreu, abragacite, c'est-à-dire par étapes, risque de poser problème, à la fois dans le calendrier, mais aussi l'image de faiblesse qu'Israël pourrait, transmettre en reculant d'une certaine manière, partiellement, et aussi et surtout parce que quand même, si on regarde la grande histoire, après 72 ans d'histoire d'Israël et 53 ans qu'Israël est revenu dans sa patrie en Judée-Samarie, pendant 53 ans depuis 67, aucun gouvernement israélien n'a voulu régler cette question de l'annexion qui était sous-jacente. Aucun gouvernement, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, n'a jamais eu le courage de donner un statut définitif à ce territoire. Voilà maintenant que l'opportunité s'en présente grâce au plan Trump. Et il est regrettable qu'un gouvernement dirigé par un Premier ministre aussi efficace que Netanyahou, qui a les mains liées maintenant avec le gouvernement d'Union à cause du corona, il est regrettable que, alors que l'occasion nous est donnée de franchir cette étape et de, comme on dit en hébreu, de surfer sur le plan Trump pour aller de l'avant et pour rendre israélien toutes les localités juives de Judée-Samarie, il est regrettable que cette entreprise ait été minée par tous les facteurs dont on a parlé. D'autant que, si vous voulez, dans les semaines qui viennent, il se peut que le gouvernement ne résiste pas à ces contradictions, bien que, par ailleurs, le corona, lui, est en train de non seulement de résister, mais de progresser, et que donc, si vous voulez, ces deux crises, la crise politique en Israël et aussi la crise sanitaire, empêchent le gouvernement d'aller plus loin, ce qui est extrêmement regrettable, parce qu'après 53 ans, alors qu'il est question d'extension de souveraineté, on s'attendrait et on s'était attendu à plus de fermeté. Je voudrais à ce titre citer le sondage publié hier par le Jerusalem Post, le quotidien israélien en anglais, qui m'a montré que, alors qu'il y a 15 jours, pour vous dire combien la position des gouvernants influe sur l'opinion publique et les hésitations des uns se répercutent ensuite sur les hésitations de l'opinion, eh bien, alors qu'il y a 15 jours, environ 51,5% des Israéliens étaient favorables à l'extension de la souveraineté d'après le plan Trump, c'est-à-dire c'est 30% de la Judée-Samarie et toute la vallée du Jourdain. Dans le sondage d'hier, il y a seulement 27%, donc presque une chute de moitié. 27% sont pour l'extension maintenant, 21% sont pour la différer. Donc si on ajoute ces deux chiffres, on trouve presque 48% qui sont pour, mais avec un plan par étape. Et il y en a 29% qui ne prennent pas parti, et je crois, si je ne me trompe pas, 24% qui sont contre. Et donc, si vous voulez, voilà, quand les têtes de la nation, le leadership de la nation hésite pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, l'opinion publique lui emboîte le pas et c'est très bien à quoi s'en tenir. Et c'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir nous sortir de ce panier de crabe.
Alors, Israël nous avait toutefois habitués au cours des décennies passées à balayer d'un revers de la main nombre de pressions internationales. On avait l'habitude d'avoir ces condamnations massives de l'Assemblée générale des Nations unies à l'endroit d'Israël. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez peut-être nous en dire un mot, il y a une nouvelle condamnation, mais d'une manière générale, on voit l'Europe, notamment la France, qui joue un rôle, semble-t-il, central dans cette tentative de pression, qui tente, par nombre de moyens, de faire reculer les dirigeants israéliens. Alors, à vous entendre, ces hésitations sont la preuve que ces pressions ont un effet ?
Écoutez, les pressions économiques de l'Europe qui menacent d'annuler certains accords de recherche scientifique ou de procéder à un vaste étiquetage des produits israéliens, comme ils ont commencé à le faire, ou de prendre d'autres mesures. Le ministre allemand des Affaires étrangères était en visite en Israël la semaine dernière et en tant qu'ami, a-t-il dit, il a averti Jérusalem que l'Europe avait... L'Europe, d'une part, en tant qu'Union européenne, mais surtout les États qui la composent, avaient différents moyens pour faire pression. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'Israël redoute vraiment, parce qu'on a traversé d'autres périodes et on sait que les menaces, des fois, ne sont pas suffisantes d'effet, bien que là, il s'agit d'une grosse affaire. Je pense plutôt, si vous voulez, comme on dit en hébreu, il y a ce qu'on appelle les marchavot shniot, les arrière-pensées, les pensées du moyen et du long terme. Je me demande, en déployant cette analyse avec vous, si, et d'ailleurs, certains experts de la scène israélienne, la scène politique israélienne ont avancé, si Netanyahou donc serait prêt peut-être à faire deux étapes de souveraineté, parce qu'entre la première et la seconde étape, il est peut-être envisageable que le gouvernement d'union ne dure plus très longtemps et que donc il y ait peut-être entre-temps des élections, auquel cas le débat électoral porterait sur de manière très claire et franche sur l'avenir de la Judée-Samarie, où il y aurait donc on prendrait le dossier à bras-le-corps devant l'opinion au lieu de jouer à fleur et moucheté comme aujourd'hui, et que donc l'arrière-pensée de Netanyahou, qui est un stratège de première, comme tout le monde le sait, certains l'ont appelé le magicien, au plan politique, mais aussi au plan diplomatique, il est probable que derrière le paravent des menaces vis-à-vis desquelles on apparaîtrait comme faire une sorte de prise en compte assez polie, il y a l'idée que ce gouvernement risque de ne pas avoir la vie longue, et le Likoud, objectivement, au vu du sondage, le même sondage qui a été publié hier, où il recueille 40 à 41 sièges au lieu des 33 actuels, avec une droite israélienne, Yamina, les partis religieux, chiffrant ensemble 65 députés sur 120, c'est-à-dire disposant de la majorité absolue à la Knesset, alors que le parti bleu et blanc s'écroule de 15 à 10 sièges. Il est probable que vis-à-vis de cette photo de l'opinion qui vaut ce qu'elle vaut, ça fait pas mal réfléchir Netanyahou sur les scénarios politiques possibles dans les mois qui viennent.
Alors, on va être tachlès, comme on dit, on va peut-être vous interroger sur les différents scénarios qui se présentent devant nous dans un contexte, et peut-être vous allez nous éclairer dessus, où la droite, et notamment les habitants de Judée-Samarie, semblent eux-mêmes aussi divisés.
Absolument, parce qu'il y a deux courants qu'on connaît, et là qui sont opposition, qui sont maintenant très exacerbés, deux courants parmi les comités des habitants de Judée-Samarie. Je vous signale qu'il y a 460 000 juifs qui vivent de l'autre côté de la pseudo-ligne verte, dans un demi-million de personnes, c'est pas des petits villages perchés en haut des collines. Il y a un courant qui pense que il y a deux raisons pour repousser le plan Trump. La première, c'est qu'il y a entre 15 et 18 localités juives qui vont être isolées au milieu de ce que sera le futur État palestinien et qui, dont le statut est incertain. Bon, Trump a promis qu'il n'y aurait pas de déménagement, mais assurer la sécurité de environ, ça représente ces 17 localités, environ 3,5% de ces 460 000 juifs, c'est-à-dire environ 15 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le retrait du Gouche Katif avait concerné que 9 000 personnes. Bon, il ne s'agit pas de retrait, mais il s'agit d'insécurité. Et la deuxième raison qui pousse donc ces leaders des conseils de Judée-Samarie à refuser le plan Trump, c'est que pour appliquer sa souveraineté sur 30% de la Judée-Samarie, l'histoire juive, l'État d'Israël d'aujourd'hui doit céder, faire cadeau gratuit aux Palestiniens des deux tiers de la Judée-Samarie, alors qu'ils n'ont aucune racine historique dans cet endroit-là, que leur venue ne date, au meilleur des cas, que d'un siècle. Et puis surtout qu'on créera un État palestinien aux portes d'Israël, qui pourrait être un 24e État arabe hostile à Israël, aux portes du pays. Et donc, si vous voulez, invoquant l'argument à la fois historique et sécuritaire, ce courant-là, d'une certaine manière, redoute que même si la création de l'État palestinien dans les 4 ans est assortie des conditions que j'ai répétées tout à l'heure, qui sont absolument indigestes l'une après l'autre pour les Palestiniens, qui donc probable leur leadership et l'habileté, j'allais dire, de surfer sur le plan de pain pour au moins saisir cette occasion pour élargir les territoires de l'autorité palestinienne actuelle, eh bien, ils estiment qu'au contraire, on gardera l'idée de le blanc-seing donné à la création d'un État palestinien et on oubliera les conditions. Ça, c'est la thèse du courant hostile. Et il y a un courant plus pragmatique qui considère que c'est une occasion historique, que justement le leadership palestinien n'acceptera jamais ces conditions et que, comme Israël ne pourra pas négocier, et d'ailleurs les Palestiniens refusent de négocier sur le plan Trump, ils l'ont boycotté depuis le départ, eh bien, il faut saisir ce que Trump propose, quitte à ce que dans 6 mois, 1 an, quand on verra bien que ça n'avance pas, eh bien, Israël puisse aussi étendre sa souveraineté ailleurs. Et donc, un courant pragmatique qui fait ressortir que, au travers de l'histoire israélienne, à chaque fois qu'il y a eu soit une guerre, soit une résolution internationale, les Palestiniens et la partie arabe a toujours, à cause de son irrédentisme et son refus de la présence juive partout dans cette région, a toujours perdu, si vous voulez, du terrain, et que donc là, ce serait l'occasion d'élargir les frontières d'Israël, d'assurer la frontière de sécurité sur le Jourdain, et puis de petit à petit, de voir si dans les années, c'est pas une question de 4 ans, si vous me posez la question, quel leadership palestinien pourrait avoir assez de juge pour reconnaître le fait juif dans cette région et changer de discours, d'après moi et d'après les données sociologiques et politiques prévalant dans la région, c'est quelque chose qui va exiger une ou deux décennies au moins. Les mentalités sont à l'islam, les mentalités sont du côté du Hamas et pas du côté de la modération. Et donc, si vous voulez, il faut qu'ils prennent d'une certaine manière en profit pour enfoncer le clou de sa présence et puis pour surfer sur le plan Trump et en saisir les meilleurs fruits, quitte à improviser par la suite.
Quel est le scénario des deux hypothèses que vous évoquiez qui a le plus de chances de perdurer?
Avant de vous répondre, je vous dirais que ça dépend du degré de violence que les Palestiniens vont déclencher, si tant est que... Bon, ils ont déjà appelé à des manifestations violentes en cas d'annexion, comme ils disent. Ils ont demandé à ce que ce soit des manifestations pacifique, mais chaque leader palestinien, de quelque tendance que ce soit, a dit que si les foules voulaient en découdre avec les soldats israéliens, ils ne pourraient pas les en empêcher. Donc on voit ce que ça signifie. Donc ça dépendra si une troisième intifada éclate, son degré de violence. Si le Hamas ne se sert pas de la situation pour effacer complètement le Fatah et le pouvoir de l'autorité palestinienne à Ramallah en prenant le pouvoir, puisqu'ils ont des cellules dormantes qui sont prêtes à ça depuis des années en Judée-Samarie. Et donc, ça si vous voulez, les scénarios dépendent de la manière aussi dont Israël aura à gérer une crise violente. Maintenant, si vous me demandez ce soir à cette heure-là, alors que il y a quelques instants, je viens d'apprendre un peu avant notre émission qu'il y avait cette hypothèse de l'application d'une souveraineté à l'envers, c'est-à-dire les endroits les plus précaires d'abord et ensuite les endroits assurés. Si vous me demandez quelle est la... c'est comme un pari de casino, ça, mais on est dans une région très tumultueuse et imprévisible. Mais je pense que, comme Netanyahou est encore pour un an et demi au pouvoir, sauf élection qui devrait être remportée par la droite et le Likoud, je pense que les Palestiniens vont rester opposés absolument au plan Trump et vont permettre à Israël d'utiliser cette fenêtre d'opportunité qui ne va pas se terminer le 1er juillet ou le 15 juillet, qui risque de s'étaler sur plusieurs mois. Et c'est ça que, sans doute, dans l'état-major du Likoud et auprès de Netanyahou, en train de réfléchir, quelle est la formule politique qui permet de faire voguer la diplomatie, attendu que, l'administration Trump a bien fait comprendre que si les Palestiniens refusaient de négocier, ben Israël pourrait prendre les décisions qui lui semblent les meilleures pour sa sécurité et pour son avenir.
Et Jadam, dernière question. On évoquait tout à l'heure les sondages sur des élections qui auraient lieu aujourd'hui et qui laisseraient le Likoud très largement en tête avec la capacité de former un gouvernement de droite très confortable. De toute évidence, le Premier ministre aurait intérêt à dissoudre la Knesset et à provoquer des élections maintenant. Pourquoi ne le fait-il pas ?
Écoutez, ça fait à peine un mois et demi que le gouvernement a été mis en place. À peine quelques semaines, courtes semaines, deux semaines que les ministres ont pris leur ministère, ont pris en charge leur ministère. Et si vous voulez, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est la justification principale du gouvernement d'union et d'urgence nationale, c'est la crise du corona. Et c'est ce que les appels pressants, je vous rappelle les appels pressants en avril-mai de Netanyahou pour, forcer le passage, je veux dire, à bleu et blanc et l'appeler à gérer le pays dans cette crise. Aujourd'hui, bon, il y a eu une rémission et Israël a bien endigué la première vague du corona. On a ces derniers jours, depuis 10 jours, un début de deuxième vague. Est-ce que ce sera vraiment une deuxième vague? Mais encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Mais il y a eu, par exemple, 300 nouveaux malades déclarés que pour la seule journée d'hier. C'est des chiffres qui rappellent les pires moments de la crise du printemps. Et donc, d'une certaine manière, cette crise sanitaire constitue un obstacle au plan d'éventuel démantèlement du gouvernement pour aller vers des élections, parce que si le virus se redémarre, ça justifiera d'autant plus le maintien du gouvernement de l'Union nationale. Et si vous voulez, je me demande aussi si, compte tenu que dans les services de renseignement en Israël, on prévoit quand même un assez fort degré de violence au cas où même si Israël n'étend sa souveraineté que sur une partie, 10% seulement sur les 30% qui lui sont octroyés, il semblerait qu'il y aura de toute manière un certain degré de violence. Et je pense que dans ce cas, ça sera aussi une donnée qui sera prise en compte par l'électorat pour bien voir que les Palestiniens ne veulent pas finalement de la solution à deux États, comme ils répètent ça sans arrêt dans les forums internationaux, deux États vivant côte à côte, dans la mesure où en fait ce qui leur importe c'est de démanteler tout l'État d'Israël, que ce soit la Judée-Samarie, mais aussi les villes comme Ashdod, Tel Aviv et ailleurs, puisqu'ils revendiquent le retour de leurs réfugiés dans tous ces endroits-là et ne peuvent pas concevoir que les Juifs aient un quelconque droit sur l'ensemble d'Eretz Israël. Et donc, si vous voulez, l'impasse à laquelle on est arrivé risque de se rendre encore plus, comment dire, en hébreu, harif, encore plus intense. Et dans ce cas-là, il me semble que Netanyahou saura tirer ses marrons du feu. En attendant, parce que dissoudre le gouvernement aujourd'hui et aller aux élections, d'abord, ça différerait le premier, ça empêcherait toute extension pour cet été. Et ensuite, si vous voulez, ça risquerait d'être mal vu par l'électorat à cause de la crise du corona.
Eh bien, merci beaucoup, Richard Darmon, pour ce tour d'horizon extrêmement complet. Je vous propose que l'on se retrouve sur les ondes de Coulam Radio le 1er juillet, peut-être la date prévue, évidemment, pour cette extension de souveraineté. On verra d'ici là ce qui se sera déroulé, quelles seront les décisions. Merci infiniment, un tour géopolitique passionnant que vous nous avez proposé. Et on vous dit à très bientôt, notamment dans toutes les éditions des journaux, vous et vos confrères qui sont sur les ondes de Coulam Radio, pour notre plus grand plaisir et, je l'espère, celui de nos auditeurs.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt. Coulam.